Nous en étions à la dernière émission, et c'est pas nécessaire d'avoir écouté les autres pour écouter celle d'aujourd'hui. Nous en étions au désir qui habite tout homme, toute femme. Que Dieu lui parle, que le silence se brise, qu'il y ait tout à coup plus de lumière, hein? Parce que quand nous considérons, je vous l'avais dit, quand on considère l'ensemble des problèmes qui surgissent dans notre vie, nous ressentons tous, je pense bien, une espèce de malaise. Hein? Parce que nous sommes égarés dans la nuit, il n'y a pas de point de repère, tandis que nous voulons bouger de tous côtés. Il y a des forces mystérieuses qui bougent encore plus fort. Et ça devient une espèce de danse en rond, inutile, un peu comme des papillons qui tournent autour d'une lumière. Ils s'y brûlent. Et tout naturellement, bien, s'éveille en nous à un moment donné, assez jeune souvent, hein? Le désir d'être éclairé, ça peut arriver même à l'âge de 4-5 ans, hein? Vous savez ça, hein? On a besoin d'être éclairé, puis d'être conseillé, puis d'être guidé. On sent d'ailleurs naître au fond de nous, surtout au début de l'adolescence, un cri à l'aide, au secours. On voudrait comprendre et certains d'entre nous s'éteignent à 15, 16, 17 ans. Si nous interrogeons nos amis, nos parents, nos semblables, on trouve la plupart du temps dans leurs réponses que des hésitations puis de l'indifférence. Tout est imprécis. Papa, qu'est-ce qui te fait croire? Ben, viens à la messe avec moi, là, puis réfléchis. C'est fini là. Ou quand on récitait les prières le soir à la maison, mets-toi à genoux puis prie, récite ton chapelet avec nous, là. Tu comprendras un jour. C'est fini là. Pas beaucoup d'explications. Il ne nous reste donc, quand on est pris comme ça, qu'à nous retourner vers Dieu lui-même. Comme l'ont fait tant d'autres avant nous. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Ça date du temps de Platon, mais longtemps. Grand philosophe grec, avant Jésus-Christ. Je vous l'ai lu l'autre dernière fois, mais je vous l'ai relis parce que c'est tellement beau. Il te faut nécessairement attendre que quelqu'un t'enseigne la conduite à tenir envers les dieux et envers les hommes. Et la personne à laquelle il dit ça lui dit, « Quand donc viendra ce temps, et quel est celui qui doit m'instruire? » Et la réponse de Platon est sublime, on dirait un chrétien. « C'est celui qui veille sur toi. Du reste, il a pour toi une affection merveilleuse. » Or, nous savons que quelqu'un veille sur nous. Hein? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, Dieu incarné. Mais quand on réfléchit aux problèmes de la vie, on sent surgir en nous le désir que Dieu nous donne plus de lumière, enfin, puis nous aide à vivre. Je m'inspire pour cette émission en partie du père Lelotte, hein, jésuite. Je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs. On a besoin de plus d'intimité avec ce Dieu, dont je vous ai beaucoup parlé dans les autres émissions. Comment le trouver, hein? Mais ce que je veux, au fond, est-ce que c'est seulement de recevoir un ensemble de vérités puis de directives? Non, non. Moi, personnellement, en tout cas, ça ne me suffit pas du tout. Les vérités, les directives, ça suffit pas. Beaucoup de gens vivent comme ça avec des vérités puis des directives, ça leur suffit. Moi, ça me suffit pas. J'ai besoin d'autre chose. Parce que j'espère, comme j'espère la plupart d'entre vous, d'autre part, j'espère, moi, entrer en contact plus étroit avec celui qui est la source infinie et parfaite du bonheur auquel j'aspire. Alors, des vérités puis des directives, ça me va, je les prends, je les aime même, ces vérités, je les aime, ces commandements. Et j'essaie de les observer avec tout mon cœur. Mais ce qu'il me faut, c'est entrer en contact plus étroit avec celui qui est la source infinie et parfaite du bonheur auquel j'aspire. Je rêve, au fond, je pense de le posséder. D'une certaine manière, même ici-bas, je ne veux pas attendre que ce soit au ciel. Je veux que l'éternité, le bonheur éternel commence dès ici-bas. Moi, je veux, puis je suppose que vous êtes tous comme moi, hein, je voudrais participer à sa vie intime. Je voudrais trouver là un bonheur incommensurable. On le lit dans la vie des saints. Je vous en parle depuis 2 ans. C'est ça que je désire, hein? Comment vivre autrement? Et c'est évident que si on me laisse à mes propres moyens, je vois bien que je suis impuissant à établir ce contact avec Dieu, à recourir directement à la source même du bonheur, à participer à la vie du Dieu qui a fait tout cet univers dont je vous ai parlé, hein? La vie de Dieu. Mais par ailleurs, je ne me reconnais aucun droit d'exiger de Dieu une telle faveur. Non. Qui suis-je pour dire, frapper sur la table, n'est-ce pas, puis dire, « Mon Dieu, j'exige que tu m'envahisses et que je te possède. » Non. Mais si mes puissances sont limitées, mes désirs, eux, les dépassent infiniment. J'ai des désirs bien plus grands que mes pauvres petites puissances. Or, sachant que Dieu existe, comme je vous l'ai déjà prouvé, j'espère que je vous l'ai prouvé, qu'il est bon et tout-puissant aussi, je le sais que ça, il est bon et tout-puissant. Alors, comment faire pour ne pas espérer le posséder lui-même? Bien, ce sont peut-être de vains espoirs, mais ce sont des espoirs quand même. Je les ai, moi, ces espoirs-là, depuis ma tendre enfance. Alors, je sentais ça quand j'avais 8-9 ans. On sent ça. Surtout, on était beaucoup plus porté à sentir ça autrefois, hein, avec la formation qu'on avait. Avec l'Eucharistie quotidienne, je servais la messe. Après la communion, on lisait les oraisons à la fin de la messe dans nos gros missels. Des belles oraisons de Saint Bonaventure ou de Saint Thomas d'Aquin. On avait 8 ans, 9 ans. On trouvait ça bien beau. Mais une fois posé l'existence de Dieu, puis mon désir très naturel d'être éclairé par lui, voire même de jouir de son intimité, alors le problème se précise. Il faut se poser la question, Dieu peut-il entrer en contact avec moi? Puis de plus, est-ce que je suis capable de recevoir son message? Et peut-être de participer à sa vie? Oh, ce serait merveilleux. Ça changerait tout, il me semble. Je ne serai plus jamais seul. Et tout d'abord, il me semble évident que Dieu peut intervenir dans notre existence d'une manière qui dépasse les exigences de notre simple nature. Dès lors, notre nature sera surnaturelle. Cela paraît évident. Pourquoi? Comment oser limiter la puissance de celui qui a fixé les lois de tout l'univers et qui a réglé, par exemple, le merveilleux mécanisme de nos corps humains? Comment limiter sa puissance et à quel titre la limiter, cette puissance? Alors comment lui dénier le pouvoir à Dieu de nous communiquer certaines vérités qui ne sont pas à notre portée facilement, de manière à nous les rendre accessibles? Autour de nous, tous les êtres matériels influent les uns sur les autres. Hein? Je vais vous dire quelque chose d'incroyable, mais les savants nous assurent que c'est vrai. C'est très intéressant. Les savants nous disent que les sons d'un violon qu'un artiste fait vibrer en Europe, ou le bruit d'une avalanche dans les Alpes ont leur répercussion dans ma chambre. Saviez-vous ça? Il suffit d'amplifier, dit-on, leurs ondes pour que, moyennant un récepteur, n'est-ce pas, une espèce de radio approprié, j'en perçoive les vibrations. C'est extraordinaire, hein? Et alors, pourquoi l'être suprême ne pourrait pas lui amplifier suffisamment sa voix pour qu'elle soit entendue par nous? Vous direz que ça n'a pas de rapport pourtant. Comment refuser à Dieu le pouvoir de nous attirer plus près de lui pour qu'on l'entende? Pourquoi Dieu ne pourrait pas nous rendre aptes, nous élever au point de nous faire participer à sa vie, de nous communiquer une vie nouvelle, surnaturelle par rapport à nous? Une vie au-dessus des exigences de notre nature, une vie surnaturelle, une vie qui ne détruirait pas notre vie, mais qui l'embellirait, puis la rendrait bien plus féconde et bien plus intéressante et bien plus lumineuse. Il suffit d'avoir peut-être un récepteur approprié pour percevoir ça, les vibrations de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Est-ce que ce serait la grâce? Et comment pourrions-nous, là, a priori, nier que nous soyons capables, avec l'aide de Dieu, de recevoir son message et même sa vie, alors que tout ce que nous possédons nous vient déjà de lui, sans aucun droit de notre part? C'est saint Thomas qui dit: toute âme est naturellement capable de la grâce. Par le fait même qu'elle est créée à l'image de Dieu, elle est capable de Dieu par la grâce, comme le dit saint Augustin, ajoute saint Thomas d'Aquin. C'est écrit 700 ans. Dieu peut nous donner ce qui nous est nécessaire, disons, des sortes d'antennes adaptées pour arriver à capter son message. Il peut dilater notre âme au point de la rendre capable, il me semble, de participer à sa propre vie. Oui, dilater notre âme. De grands génies, même païens, ont cru à la possibilité d'une telle intervention divine dans notre existence. On peut écouter le fameux Plutarque, grand moraliste grec, qui est né moins de 20 ans après la mort de Jésus-Christ. Il est né en 47, puis il est mort en l'an 120. Il dit: le corps est l'instrument de l'âme, et l'âme est l'instrument de Dieu. Et comme le corps a ses mouvements qui lui sont propres, mais en a d'autres plus beaux qui viennent de l'âme, ainsi l'âme, à son tour, a son ordre propre d'action et de mouvement, mais peut aussi, comme le plus parfait des instruments, se laisser diriger et mouvoir par Dieu qui agit en elle. Que si le feu, le vent, l'eau, le nuage sont instruments de Dieu pour la vie ou la mort, qui croira que les êtres vivants ne puissent s'adapter à la force de Dieu et travailler avec cette force et s'inspirer des mouvements de Dieu? C'est là le plus grand bonheur. Travailler avec cette force et s'inspirer des mouvements de Dieu. C'est là le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Et Platon, qui a vécu à Athènes plus de 30 ans avant Jésus-Christ, disait de son côté: il faut prendre l'enseignement humain le meilleur, y monter comme sur un frêle esquif, et traverser ainsi, non sans danger, le fleuve de la vie, à moins qu'on arrive à traverser plus sûrement sur un vaisseau meilleur, c'est-à-dire sur un enseignement divin. Et c'est ça le problème de cette émission. Il faut traverser sur un vaisseau meilleur, c'est-à-dire sur un enseignement divin. Nous verrons ça tout à l'heure. Oui, mais alors, une fois posée de part et d'autre la possibilité d'un contact, ben, une question la plus redoutable qui soit se présente à l'esprit de tout homme, de toute femme qui réfléchit: est-ce que Dieu a, oui ou non, parlé à l'humanité? Oui ou non? C'est fondamental. Il faut choisir. Ou bien Dieu, après avoir dicté ses lois au monde, a gardé un étrange silence. Un silence absolu sur ses projets, ses plans. Il a donc évité, dit-on, tout contact avec les êtres qu'il a créés. Il nous aurait abandonnés à notre misère. Ou bien, Dieu est entré en rapport avec l'humanité. Il s'est occupé de nous. Et ce que l'Antiquité païenne, les Grecs comme Platon, Plutarque, a soupçonné, mais toutes les religions dites révélées l'affirment. Toutes les religions révélées, puis il y en a, disent toutes. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Ben oui, mais si Dieu a parlé, comment ça se fait qu'il dit des choses contraires? Où Dieu a-t-il vraiment parlé? C'est l'immense majorité des hommes qui croient une intervention spéciale de Dieu dans la vie de l'humanité. Mais si Dieu a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a ordonné? Qu'est-ce qu'il a conseillé? Et à quoi nous a-t-il invités? Ce sont des questions capitales qu'un homme ou une femme sensée ne peut négliger. Alors je vous relis donc ce texte de Don Pierre Célestin Liu Zhenxiang, ancien premier ministre de Chine au début du siècle, après la chute de l'empereur de Chine, et qui est allé vivre finalement en Belgique, et après la mort de sa femme belge, il est entré chez les bénédictins du Mont César, en Belgique. Il est devenu abbé du monastère. C'est un très grand converti. Énorme. Un Chinois. Il dit, je voudrais dire à mes compatriotes, lisez donc l'Évangile. Prenez toutes les pages de l'histoire de l'Église, y compris ces quelques pages maculées par la faiblesse ou la malice de certains hommes. Faites la part des choses, la part des hommes et la part de Dieu, et vous conclurez à un fait social absolument supérieur et unique. Peut-être alors, vous poserez-vous la question, le Créateur s'est-il révélé? Ceux qui aimeraient savoir ce que j'ai dit sur Don Pierre Célestin Liu Zhenxiang, il y a une cassette que Marc-Alexandre a, c'est la cassette du 15 janvier, il y a un peu plus d'un an, 1996. Or, si le Créateur s'est révélé, moi je dis que oui, le Créateur s'est révélé. Mais, puisque c'est pas possible, puisque c'est pas impossible, disent la plupart des hommes que Dieu ait parlé, il faut donc disposer son âme pour aller à la recherche. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une disposition, disons, habituelle, à faire un acte de foi, c'est-à-dire à accepter une vérité, en s'appuyant évidemment sur le témoignage d'autrui, mais un témoignage sérieux, pas n'importe qui. Lorsque nous jugeons raisonnable de faire confiance à celui qui nous communique cette vérité, bien, on peut s'appuyer sur son témoignage. Il faut lui faire confiance. Alors, qui est digne de confiance? Il y en a qui se récrient aussitôt que ça n'a pas de sens, cette démarche-là. Ils qualifient une telle démarche d'humiliante d'abord, puis de contraire au droit de la raison. Je suis d'accord dans un sens, parce qu'il y a tellement de faux prophètes et de gens qui disent « c'est moi qui ai raison ». On l'a vu hier dans une émission que j'ai faite. Hein? Mais il ne s'agit pas du tout de violer les droits de la raison. Je vais vous concéder qu'il faut d'abord se rappeler que l'intelligence humaine, notre intelligence, elle est limitée. Elle n'est pas compétente en tout. Alors pourquoi alors se priver de renseignements? Pourquoi pas aller se renseigner chez des gens plus informés? Pourquoi refuser d'admettre le témoignage de quelqu'un qui est plus compétent que moi? Ce serait plutôt ridicule. Parce que quand on a recours à quelqu'un d'autre pour en recevoir quelques lumières, il me semble que c'est une démarche très raisonnable, très, très raisonnable. De toute façon, vous conviendrez qu'on fait ça tous les jours, hein? Sans qu'on le remarque, nous acceptons continuellement des vérités, pas parce que Elles nous sont évidentes, pas parce que nous les avons contrôlées, mais parce que le témoignage de ceux qui nous les communiquent nous paraît sûr, c'est évident, hein, en agissant ainsi. Nous faisons quoi? Un acte de foi humain, c'est-à-dire que nous croyons sur le témoignage de quelqu'un. Bon, une vérité incontrôlable, ou du moins incontrôlée par nous. Je vous donne des exemples simples. Des personnes m'annoncent la mort d'un ami. Ils m'annoncent le résultat d'un match de hockey, ou la prise d'une ville, ou le résultat des élections fédérales, alors que j'ai pas pu les suivre à la télévision, à la radio, j'étais pris à autre chose. Ils m'annoncent la mise en vente d'un immeuble, ou bien le titre d'un nouveau livre extraordinaire. Impossible de tout contrôler moi-même. Si ces personnes sont dignes de foi, je leur fais confiance et je crois ce qu'ils disent. La vie me serait impossible si je voulais toujours vérifier l'authenticité des faits qui ont de l'importance pour moi. Exemple. Disons, je veux acheter une action de mine de cuivre du Congo, le nouveau pays, là. Mais je devrais certes examiner d'abord comment se porte le pays là-bas. Si l'action qu'on m'offre n'est pas fausse, si le capital de la société n'est pas fictif, mais aussi si le Congo existe réellement. Ben, je l'ai vu à la télévision, mais c'est peut-être pas réel. Faudrait aller vérifier par moi-même. Faudrait que je prenne l'avion pour aller voir là-bas. Hein. Si la mine de cuivre existe, donc il faudrait que j'aille jusqu'au Katanga, dans le Congo. Là. Si le cuivre est bon, faudrait que je fasse une analyse moi-même. Faudrait que je connaisse ça. Et si les usines américaines qui l'ont commandé existent, alors là, j'irai aux États-Unis visiter tout ça. Si elles ont de quoi payer leurs commandes, il faudrait qu'elles me montrent leurs livres, etc., etc., on n'en finit plus. Si je devais entreprendre moi-même toutes ces recherches, tous ces voyages, toutes ces histoires, celui qui m'offre l'action va alors perdre patience, hein? Avant que je me décide, il va aller la vendre à quelqu'un d'autre. Si c'est une bonne action, je perdrai. Hein? On dira que c'est toujours possible de constater sur place si les faits signalés sont exacts. Mais la plupart du temps, ces faits sont devenus incontrôlables. Comment avoir la certitude que, disons, que Jacques Cartier a existé, que Maisonneuve a vraiment existé, qu'il l'a vu? Et puis, si l'un de ces vieux matelots ou des cofondateurs de Montréal existait encore, je devrais tout de même lui faire confiance, hein? À cette personne qui m'annoncerait ça, qui me parlerait de Jacques Cartier puis de Maisonneuve. Il faut que je fasse confiance et croire, faire un acte de foi, c'est donc la chose la plus universelle et la plus banale qui soit. Hein? C'est capital, cette conclusion. Et j'y arriverai tout à l'heure. Vous direz que c'est de l'enfantillage, mais c'est très bon pour les jeunes. Faites écouter ça à un jeune, il comprendra bien des choses. Car on ne lui dit pas toujours ces choses-là aujourd'hui. Il est question aujourd'hui de cette recherche de savoir si Dieu a parlé. Comment être sûr? Ou du moins assez sûr. On est sûr que quelqu'un nous a raconté des choses et qu'elles sont vraies. Bon, on nous dit que Jacques Cartier existait, on le croit. Et cette conclusion, on le devine, est capitale. Car si c'est Dieu qui vient me parler, à me révéler directement ou par l'intermédiaire de ceux qui s'est choisi, là, une vérité que je ne puis trouver ou contrôler par moi-même, de quel droit est-ce que je pourrais refuser de l'écouter? Ben écoutez, au moins pour savoir, hein? Et de quel droit rejeter a priori son témoignage ou leur témoignage, alors qu'à tout instant, je fais confiance à mes semblables? De quel droit ne pas vouloir faire un acte de foi en Dieu quand ma vie est tissée d'actes de foi en toutes sortes d'hommes? Certes, c'est sûr, là, avant d'accepter ce que certains me disent tenir de Dieu, j'aurai soin, évidemment, d'appliquer les règles de prudence. Oui, c'est très important, qui me guide dans la vie courante. Hein. On sait surtout aujourd'hui quand il y a tant de Raël, puis de Moon, et de toutes sortes de gens hein, plus ou moins étranges. Hein. Alors, la raison humaine, qui est un don de Dieu, a des droits qu'elle doit exercer, puis des devoirs qu'elle ne peut négliger de remplir. Surtout quand il s'agit d'une question aussi importante que celle de l'orientation à donner à la vie. Comprenez bien que plus la raison sent que les conséquences là, du témoignage que je vais recevoir seront pour ma raison de haute gravité, puis que ces témoignages, les conséquences vont l'engager dans des démarches importantes, plus elle prend de garantie la raison contre toute chance d'erreur. Avant d'ajouter foi à la révélation, la raison exige donc que la révélation présente ses lettres de créance. C'est pas si facile. Pas facile. Une fois que les préliminaires de l'acte de foi ont été posés, c'est-à-dire que j'estime qu'il est raisonnable de faire confiance à un tel, mais je dois faire le pas décisif et formuler un acte de foi. Puis à ce moment-là, je m'abandonne à autrui, mais j'accomplis une démarche raisonnable, alors même qu'elle entraîne pour moi l'acceptation d'une vérité que je ne peux pas justifier par ma pure raison ou contrôler de mes yeux. Comme le dit un auteur, assurément la foi s'appuie sur des preuves, sur les preuves, parce qu'elle est, pour une part, l'intelligence du vrai, la compréhension de la vérité, quoi. Mais elle est un acte libre, la foi, un acte libre de notre volonté qui se jette avec confiance dans les bras de Dieu, quand nous sommes arrivés au point où la science n'a plus rien à dire. Quand la science n'a plus rien à dire, rien à dire. Et un autre auteur dit ceci: le rôle décisif du cœur dans la foi est une évidence. Il y a toujours des pharisiens pour discuter pied à pied puis nier le miracle de la guérison de l'aveugle-né. Hein? Je vous ai raconté des miracles en quantité. Des cassettes existent. C'est des miracles fantastiques de ce siècle-ci, à Lourdes particulièrement, dans le sud de la France, au pied des Pyrénées. Puis il y aura toujours des saints gens pour reconnaître le maître Jésus dans la brume du matin de Pâques. N'ont pas besoin de plus que ça. L'amour qui les dirige. L'Église catholique, on va le voir tout à l'heure, affirme que Dieu a parlé aux hommes, mais elle est la première, à mon avis, à reconnaître les droits de la raison, puis à exiger que notre foi soit rationnelle. C'est arrivé il y a 150 ans à peu près. C'est Pie IX, en 1846, il a publié une encyclique. Si vous la cherchez, le titre c'est « Qui pluribus ». Il le dit fort bien dans cette encyclique. Voici le texte, trois lignes de Pie IX. « La raison humaine, pour éviter trop de tromperies et toute erreur dans une affaire de si haute importance, doit faire l'enquête la plus attentive sur la réalité de la révélation divine, afin qu'il lui soit absolument certain que Dieu a parlé. » Oui, c'est un pape qui dit ça, pas un abruti. La religion catholique, qui ose dire des choses comme ça, je trouve ça très consolant pour ma part. Moi, quand je lis cette déclaration, je me sens en confiance. L'attitude de l'Église à l'égard de la raison me plaît. Mais je sais aussi que l'Église compte sur le cœur. Le cœur dans le sens de cette partie la plus profonde de l'être humain où Dieu habite. Je rappelle ce que Pie IX a dit. La raison humaine, pour éviter toute tromperie et toute erreur dans une affaire de si haute importance, doit faire l'enquête la plus attentive sur la réalité de la révélation divine afin qu'il lui soit absolument certain que Dieu a parlé. Or, puisque Dieu existe, puisque tout l'univers me parle de lui, puisque je dépends de lui par toutes les fibres de mon être, je ne puis vivre comme si j'étais seul sur la scène du monde. Je vous ai parlé de tout ça, de l'existence de Dieu, les 9, 14 et 22 de ce mois de mai, trois émissions. Alors je dois évidemment tenir compte de sa présence, je dois donc établir des relations avec lui, mais comment? Alors, l'ensemble de ces relations, abstraction faite de toute révélation, là, constitue ce qu'on appelle la religion, qui vient du mot religare et relier, comme vous savez, hein? La religion naturelle. Elle groupe toutes les obligations que l'homme, en vertu de sa nature, contracte à l'égard de Dieu. Alors, la première attitude là, qui s'impose à moi, on va en voir d'autres plus tard, c'est la prière. Prier, c'est se souvenir de Dieu puis converser avec lui. Une fois compris ce qui précède, il devient raisonnable pour tout homme de prier. Même si l'on adhère à aucune religion révélée, là, s'adresser à Dieu, ce n'est pas plus drôle ou étrange ou fantastique que de saluer son patron avant puis après son travail, quoi. C'est un geste d'élémentaire politesse, je dirais, c'est d'être poli. Si on croit à Dieu, Dieu peut être adoré partout et en tout temps. Hein? Et ce qui importe, quand on entre en contact avec lui, c'est d'avoir une attitude respectueuse et d'être attentif à ce que l'on fait. Et de nouveau, ce sont là des règles élémentaires de politesse, il me semble. Les gens qui disent « Oui, oui, Dieu existe, puis il prie jamais. » Il devrait au moins lui parler un peu, lui dire bonjour le matin, lui dire merci pour ça, merci. S'ils ont des enfants, merci pour cet enfant que tu m'as fait. C'est pas nous qui faisons les enfants, je vous l'ai déjà dit. Alors la prière est avant tout un moyen d'adorer Dieu, de le remercier de ses faveurs et de lui exprimer son regret pour les négligences qu'on a. La prière sert aussi à demander une faveur et pourquoi pas? Pourquoi pas lui demander, c'est un père. C'est lui qui nous a fait. Il nous a tout donné ce que nous sommes. Puisque Dieu peut avoir parlé aux hommes, n'est-il pas tout indiqué de lui demander avant tout la faveur de recevoir éventuellement son message, puis d'en saisir toute la portée? Peut-être qu'avant de continuer, il conviendrait de prier puis de lui dire, Seigneur, montre-moi. Montre-moi si tu as vraiment parlé. Et avec ces dispositions d'âme, esprit de foi, l'esprit de prière, quoi. Ce sont des dispositions très raisonnables, très humaines, très dignes, mais nous sommes enfin préparés à aborder la solution du problème de la vie, de savoir si Dieu a parlé. Donc, je vous ai dit que l'Église enseigne que l'on doit se servir de la raison pour éviter toute erreur dans la recherche de la révélation, mais en fait, la foi est-elle une affaire de cœur ou de raison? C'est Blaise Pascal qui a écrit dans ses pensées, c'est le cœur. Dans le sens profond du mot cœur, hein? Pas le sentiment, là. Le cœur. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison, dit Pascal. Mais en écrivant ça, Pascal affirme très justement, d'autre part, qu'on ne rencontre pas le Dieu de la révélation à la suite d'un raisonnement, mais dans un cœur à cœur où l'amour joue un rôle archi-important. Celui qui n'aime pas, disait déjà l'apôtre Jean, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Puis ce même Pascal écrit toujours, il prépare en même temps, quoi, un livre important, une apologie, dans lequel, d'autre part, il veut montrer, preuve à l'appui, que la religion chrétienne est la seule vraie. Donc, il veut se servir de la raison. Alors, comment concilier les deux affirmations là, qui semblent tout à fait contradictoires, puis se montrent la part du cœur, puis aussi celle de la raison dans la foi chrétienne? C'est assez curieux. La foi en Jésus-Christ, c'est une expérience spirituelle que l'Esprit-Saint nous donne de faire. Saint Paul le dit, hein, personne ne peut dire Seigneur, Jésus est Seigneur, si ce n'est dans l'Esprit-Saint, c'est dans la première aux Corinthiens. Mais le Nouveau Testament parle aussi des signes à travers lesquels le croyant est invité à reconnaître en Jésus le Messie, celui qui révèle Dieu dans la splendeur de son amour pour chacun d'entre nous. Hein. Et la découverte de Dieu, c'est sûr, n'est jamais le résultat d'une démarche purement intellectuelle. Je ne parle pas de son existence seulement, là. Dieu se rencontre comme une personne dans le cœur à cœur d'une expérience spirituelle. Ineffable, ineffable. C'est plus que son existence. C'est une aventure personnelle qui surgit. Et les itinéraires sont donc très différents les uns des autres. Certains êtres cheminent sur une route en lacet, ils zigzaguent jusqu'au sommet de la montagne. Bon, ils y arrivent. D'autres, comme Saint-Paul, ont été littéralement empoignés par le Seigneur au détour d'un chemin, puis ont été jetés en bas de son cheval. J'ai déjà fait une émission là-dessus. C'est les grandes conversions subites. Il y avait Saint-Paul, André Frossard, Paul-Claude Del, Blaise Pascal. J'ai fait ça le 19 décembre 1995. C'est l'émission numéro 167. Or, quel que soit son parcours, le chrétien sait très bien que sa foi, c'est le fruit d'une initiative divine absolument gratuite. Personne n'a dit « Jésus ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire ». Et nous connaissons la façon dont le Père attire un homme vers son Fils, en répandant l'Esprit dans son cœur. Il répand l'Esprit dans nos cœurs. Et c'est ce même Esprit qui pénètre nos cœurs par le Christ Jésus, qui nous permet de dire à Dieu avec beaucoup de confiance « Père ». Et cette expérience spirituelle peut se faire indépendamment de toute raison objective de croire. Paul Claudel se convertit à Notre-Dame de Paris, l'après-midi de Noël 1886. Son cœur expérimente la présence de Dieu, alors que son esprit reste envahi d'innombrables objections contre la vérité de la religion. Il faut lire ces témoignages, très intéressants, où l'on voit très bien le cœur touché jusque dans ses profondeurs, le cœur qui adhère à Dieu alors que l'esprit n'est pas encore converti, lui. La raison ne marche pas trop. La religion catholique semble toujours le même trésor d'anecdotes absurdes aux yeux de Claudet. Et je le comprends. La raison de la misère avec la foi. Est-ce que ça veut dire que le converti peut rester ainsi tiraillé toute sa vie entre l'intuition de son cœur puis les idées de son esprit? Mais pas du tout. Son esprit devra être évangélisé peu à peu. Comme beaucoup d'autres convertis, Claudel va se plonger dans les livres afin d'amener son intelligence à croire sans réticence. Il va même lire la métaphysique d'Aristote, les pensées de Pascal, les élévations sur les mystères, les méditations sur les évangiles de Bossuet. Et Claudel doit surtout mettre sa vie en accord avec sa foi. C'est là la clé. Et c'est un fameux combat. Un jeune homme se rend bien compte qu'il doit parler de sa conversion à sa famille, mais le respect humain l'en empêche, hein? Ça lui donnait des sueurs froides, lui. Après 4 ans de résistance, il finit par se rendre. Puis il se confesse, il reçoit l'absolution le 25 décembre 1890 à Notre-Dame de Paris, puis il communie pour la deuxième fois de sa vie. Bon, je m'attarde un petit peu là-dessus, mais c'est qu'on y voit avec une parfaite clarté que pour être pleinement croyant, il ne suffit pas d'avoir eu le cœur touché par la grâce, d'avoir reçu une révélation ineffable, d'avoir eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence puis de l'éternelle enfance de Dieu, comme ils disent, ils écrivent ça. Il faut encore, quoi? Que la lumière de Dieu pénètre peu à peu l'intelligence et que sa force transforme la volonté. C'est là que la raison intervient. Et cette ouverture de tout notre être à l'invasion de l'esprit ne se fait pas sans combat, hein? C'est un combat que Paul Claudel a évoqué en commandant un verset de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. » Hein? C'est dans l'Apocalypse, au chapitre 3, c'est beau ça. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. » Il arrive qu'on mette beaucoup de temps à ouvrir la porte. On dit « Esprit de Dieu, n'entrez pas. Je crains les courants d'air. » Mon peur d'attraper le rhume, si l'Esprit Saint souffle. Mais Dieu nous donne des raisons de croire. Hein? La rencontre de Dieu est absolument indicible. La foi est pourtant aussi la faculté de repérer son passage à travers les signes qu'il nous adresse. Car le Dieu auquel adhère la foi chrétienne et qui conduit les âmes dans le désert pour leur parler au cœur, comme on dit dans le prophète Osée, hein? Il est aussi celui qui s'est révélé à partir d'Abraham, qui s'est manifesté de façon privilégiée sous Ponce Pilate, et qui continue à se rendre présent de façon très spéciale au milieu de son Église, avec les saints. Il est donc normal que le chrétien cherche dans l'histoire les traces objectives de ce passage avec son cœur, mais aussi avec sa raison. Chercher des traces, Dieu en a laissé. Il nous aime trop pour ne pas avoir préparé à notre intelligence la nourriture dont elle a besoin pour éliminer ses doutes. C'est très important de bien comprendre que c'est Dieu lui-même qui a suscité dans l'esprit humain des exigences critiques, Le besoin de ne rien affirmer sans raison, c'est naturel. Le besoin de vérifier ses intuitions. On ne cède donc pas à l'orgueil lorsqu'on cherche à donner à notre foi des fondements solides. Là. Lorsque Jésus dit à Thomas « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu », il n'exalte pas l'attitude des chrétiens qui n'auront aucune exigence critique. Là. Pas ça du tout. Il ne reproche pas à Thomas d'avoir réclamé des raisons de croire. D'ailleurs, Jésus, durant tout son ministère, a multiplié les guérisons pour accréditer sa mission. Ce qu'il reproche à Thomas, c'est d'avoir exigé une manifestation particulière, d'avoir voulu mettre lui-même les mains dans ses plaies, au lieu d'accueillir avec confiance, écoutez bien, le témoignage de ceux qui l'avaient vu ressusciter. On n'a pas d'autre alternative, il me semble, nous ne pouvons connaître la résurrection du Christ qu'à travers le témoignage de ces témoins privilégiés. Vous direz, ben oui, ils ont parlé il y a 2000 ans. Il nous est nullement défendu, bien au contraire, d'aller vérifier la validité de leur témoignage par une étude critique des quatre évangiles. Il y a une solidité dans la foi qu'on ne peut obtenir que par un minimum d'études historiques. Et comment pourrait-on être assuré dans sa foi si l'on était convaincu qu'il ne s'est rien passé sous Ponce Pilate et que depuis 20 siècles, le Christ n'a jamais manifesté sa présence à ses disciples? Nous n'avons pas tous à mener une enquête historique détaillée, c'est impossible. Mais nous devons au moins savoir que cette enquête a été faite par d'autres. Puis cette enquête est sérieuse. Oui, il y a des motifs, des signes objectifs du passage de Dieu dans l'histoire des hommes. Je vous les rappelle brièvement. Pensez à la permanence du peuple juif à travers l'histoire. C'est un phénomène unique. Pensez à l'étonnante personnalité de Jésus de Nazareth. Tous s'entendent là-dessus, même des athées, pour reconnaître cette extraordinaire personnalité de Jésus. Presque tous s'entendent. Pensez aux témoignages donnés par les apôtres après la résurrection de leur maître. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont allés jusqu'au martyr. Pensez à l'histoire merveilleuse d'un François d'Assise ou d'un Saint-Vincent de Paul et de tant de saints dont je vous ai raconté la vie depuis deux ans. Pensez aux guérisons incontestables qui s'accomplissent à Lourdes ou ailleurs. Je viens de vous en dire un mot. Vous pouvez obtenir les cassettes chez Marc Alexandre. Vous écouterez ça et vous verrez ou achetez-vous des livres sur les miracles de Lourdes. Vous lirez, c'est tout documenté. Pensez à la vitalité de certaines communautés chrétiennes d'hier et d'aujourd'hui. Une vitalité intérieure incroyable. Exemple, les trappistes. 7 d'entre eux sont tués en Algérie. Je vous ai raconté ça il y a une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pardon, la paix. Imaginez 7 imams tués près de Paris par des catholiques imaginaires qui seraient des fanatiques avec des armes et des mitrailleuses, etc., ce qui n'existe pas. 7 imams tués près de Paris. Qu'est-ce qui se passerait? J'aime autant pas l'imaginer, j'aime autant pas en parler. Ce seraient des manifestations presque mondiales. Devant toutes les ambassades de France et à Paris, il y aurait des explosions, le métro, les ponts, je ne sais quoi. Puis, les restants de chrétiens en Algérie seraient morts. C'est comme ça. Quelle vitalité incroyable dans les communautés chrétiennes! Souhaitons que nos communautés musulmanes et autres aspirent à cette miséricorde que Dieu fait régner sur les âmes. Dieu le miséricordieux, disent les musulmans. Mais oui, et ces signes n'apparaissent pas dans toute leur valeur. Que je vous ai dit qu'à ceux qui ont reçu les yeux de la foi, il faut avoir la foi pour le comprendre, ils sont cependant des réalités objectives que le chrétien a tout avantage à étudier de près. Pour asseoir sa foi sur de solides pilotis, sur du roc. Moi, je sais bien que beaucoup de penseurs ont dit leur étonnement de voir des chrétiens fonder leur certitude concernant l'éternité, le Dieu, l'au-delà, sur des faits historiques. Autrement dit, ces penseurs veulent bien croire à certaines propositions d'Évangile parce qu'elles leur semblent raisonnables, ce qui est, somme toute, une démarche philosophique. Mais ils ne veulent pas y croire parce que des faits leur montreraient qu'en ce temps-là, il s'est produit quelque chose de singulier. Quoi? L'Éternel est passé du côté du Proche-Orient. Il a parlé sous Ponce Pilate et nous devons adhérer à son message, ce qui est la foi proprement dite. Nous retrouvons évidemment ici la place centrale qu'occupe dans la pensée chrétienne le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. À partir du moment où l'on croit que l'Éternel a choisi un lieu, un temps, une race, une mère, Marie, des apôtres, pour entrer en communication avec les hommes de tous les temps, nous sommes bien obligés de passer par leur médiation pour savoir ce qu'ils ont, ce qu'il est venu dire et accomplir. Le recours à l'histoire s'impose, et ainsi donc, la foi chrétienne est indissolublement affaire de cœur et de raison. La foi chrétienne est quelque chose de plus que la simple expérience religieuse qui nous fait sentir Dieu dans le silence de la nature ou la beauté d'un office monastique, c'est sûr. Le chrétien ne dédaigne pas de prier les yeux émerveillés là, par un beau coucher de soleil. Le chrétien aime bien être enchanté par un beau morceau d'orgue, celui qu'il préfère surtout. Mais dans la mesure même où sa foi, c'est la rencontre du Christ ressuscité, la foi ne peut se dispenser de recourir à l'histoire. Le Christ dont j'expérimente la présence dans ce cœur à cœur d'une prière est celui-là même qui est né à Bethléem et qui est mort à Jérusalem et qui s'est manifesté à plusieurs reprises à ses apôtres après sa résurrection d'entre les morts. Il ne peut y avoir rencontre plénière, je dis bien plénière de Jésus-Christ, sans la médiation de son Église et de ses quatre évangiles. Mais d'autre part, le simple sentiment religieux n'a pas besoin d'être vérifié. Ce n'est pas comme la foi chrétienne, le simple sentiment religieux. Il suffit de s'y livrer au sentiment religieux, comme un enfant. Mais la foi chrétienne, au contraire, c'est l'adhésion à quelqu'un qui a vécu sous Ponce Pilate. Elle ne peut se dispenser pour être solide d'aller vérifier ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. N'oubliez pas ce que dit Jésus sur le péché contre l'esprit que dénonce Jésus, qui consiste précisément à se fermer à la lumière intérieure qu'il nous donne, au point de devenir incapable de trouver sa présence agissant dans les œuvres qu'il accomplit. Souvenez-vous de cette parole de Jésus, donc. « Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Ou si je vous le dis, le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. » Quand le Christ Jésus devient une évidence, c'est la sainteté qui commence. « Celui qui croit en moi, dit Jésus, mon Père et moi, nous viendrons à lui, nous y ferons notre demeure. » Une demeure! Ils n'y dorment pas dans la demeure. Ils y sont vivants au plus intime de notre cœur. C'est la raison qui nous le fait comprendre.